Un tango? Une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, t'es.
Ça y est.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, c'est, ça résume. Quoi.
Par les temps qui courent.
C'est avec sa langue que le traducteur traverse et interroge le pays de la langue étrangère, ses forêts et ses merveilles, ses labyrinthes et ses horizons. Le traducteur sait qu'il doit revenir de son odyssée en ayant sauvé de l'autre langue tout ce qu'il est possible, préserver le sens au maximum, conserver les formes au plus secret de leur invention. C'est de cette façon que le traducteur italien Antonio Prete décrit le voyage qu'est la traduction d'une langue à l'autre, avec les pertes et les rencontres qui l'accompagnent. C'est une traversée que vous avez entreprise depuis plusieurs années, Daniel Robert. Vous avez fait voyager vers le français aussi bien l'anglais, le latin des poètes Ovid ou Catulle, et l'italien du Moyen-Âge. Comme une odyssée de la poésie à la poésie, qui a culminé l'année dernière avec la traduction complète de la Divine Comédie de Dante Alighieri, les forêts et les labyrinthes de l'enfer, du purgatoire et du paradis en français, tout en vers rimés et tout en rythme. Bonsoir Daniel Robert.
Bonsoir.
Votre traduction de la Divine Comédie de Dante vient de paraître en poche, en intégrale, chez Actes Sud dans la collection de Babel, et on peut ajouter que Dante est mort en 1321, c'est-à-dire il y a très exactement 700 ans.
700 ans, nous célébrons l'anniversaire, de sa mort cette année.
Je citais en introduction Antonio Prete, qui est un traducteur qui traduit notamment du français vers l'italien. Et c'est un traducteur que vous avez traduit, notamment dans un essai qu'il a écrit qui s'appelle « À l'ombre de l'autre langue » aux éditions du Chemin de Ronde, dont j'ai tiré l'extrait. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa définition de traduction comme odyssée, comme voyage ?
Totalement. Je suis très très proche de la démarche d'Antonio Prete pour ce qui est de la traduction et je suis extrêmement admirative de son œuvre, non seulement de spécialiste de Leopardi, d'essayiste remarquable, comparatiste, mais aussi de poète et de traducteur. Vous savez qu'il a écrit, il a traduit Les Fleurs du Mal, l'intégralité des Fleurs du Mal en vers. Et il parvient à faire entendre la voix de Baudelaire à travers le vers italien, qui est l'un des syllabes. Et il réussit là un tel tour de force que c'est ce qui m'a, en partie, ce qui m'a incité à me lancer dans la traduction de la Commedia.
C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle pas souvent des auteurs français difficiles à traduire. Parce que nous, depuis notre point de vue, on parle beaucoup des sommets comme la Divine Comédie ou Ulysse de Joyce. Mm-hmm. Mais on parle rarement de la difficulté que représente un texte français comme Les Fleurs du Mal à traduire.
Voilà.
Est-ce que c'est important d'avoir des modèles comme ça en traduction, des pairs et une pensée aussi?
Oui, surtout une pensée, oui, et ce que Yves Bonnefoy appelait la communauté des traducteurs, une sorte de réseau d'affinités, de préoccupations communes qui permet d'avancer.
Dans l'image que je lisais aussi en introduction, il y a quelque chose d'intéressant dans le texte qui dit, c'est que dans l'Odyssée, le traducteur, il veut sauver de l'autre langue tout ce qu'il est possible.
Oui.
Ce serait du sauvetage, la traduction. On cherche, quand on traduit, à sauver tout ce qui est possible.
Certainement. Sauver tout ce qui est possible, c'est-à-dire essayer de perdre le moins possible en traduisant. Puisque le passage d'une langue à l'autre, et surtout quand il s'agit de poésie, fait que on va fatalement devoir renoncer à certaines choses qui ne passeraient pas dans la langue d'arrivée. Et on ne peut pas le faire de façon insouciante ou légère. On est obligé de bien mesurer l'étendue de la perte, ce qu'on peut accepter de perdre au profit de quelque chose qui permettra de retrouver quand même, de ne pas perdre le fil de la pensée de l'auteur. Et c'est tout cet équilibre entre ce qu'on peut conservé de, et ce qu'on perd mais qu'on retrouve par ailleurs qui fait la tâche du traducteur. Son art, je vais même dire.
Vous allez même jusque-là, oui, c'est un art. Oui. Je propose qu'on écoute un auteur, Umberto Eco.
C'est justement dans la culture avec la C majuscule qu'il y a des différences qui résistent. Hein? Vous avez les hôtels, les aéroports qui sont les mêmes, mais un poète français n'est pas un poète japonais ou un poète chinois. Et c'est pour ça qu'il existe, heureusement, même la traduction, qui sont des efforts pour comprendre des cultures différentes. Alors, ça, la culture avec la C majuscule, c'est encore notre façon de résister à l'homogénéisation des cultures avec la C minuscule. La traduction n'est pas seulement d'une langue à l'autre, mais c'est d'une culture à l'autre. Je vous fais un exemple le plus banal du monde. Imaginez-vous que pour représenter dans un roman un idiot, je lui fais faire un jeu de mots absolument idiot. Ce jeu de mots dans une autre langue ne marche pas. Mais vous ne devez pas traduire ce jeu de mots. Vous devez démontrer que le type était un idiot. Donc vous êtes libre d'inventer un autre jeu de mots qui, dans cette culture, a l'air d'être minable. Voilà, c'est que, s'adapter à une culture. Donc une traduction, c'est un dialogue entre cultures différentes.
Daniel Robert, c'est la voix de Umberto Eco, une archive de France Culture qui date de 2011. Où il dit qu'on traduit bien sûr une langue, mais on traduit d'abord et avant tout une culture. Et vous avez acquiescé en écoutant cette archive.
Oui, bien sûr. On ne traduit pas que la langue. On traduit une personne qui parle, écrit cette langue d'une manière tout à fait particulière. Parce que un écrivain, un poète, n'utilise pas le langage simplement comme on l'utilise dans la vie courante, le matériau brut. Il fait à partir de cette langue un texte, donc un objet littéraire.
Une langue dans sa langue ?
Voilà, bien sûr. Donc, un écrivain est un traducteur, en fait. Il traduit le matériau brut dont tout le monde dispose pour communiquer, mais il en prend une partie dont il va faire quelque chose qui lui appartient en propre, qui vient de ses préoccupations, ses goûts, ses angoisses, ses joies, et qui n'appartiennent qu'à lui.
Et dans le cas de la blague de l'idiot, qui est l'exemple de Umberto Eco, ce serait quelque chose qui serait fondamentalement perdu, mais la tâche du traducteur, ce serait de rendre quelque chose de l'idiotie.
Voilà, avec un autre moyen, avec l'outil dont il dispose, qui est l'outil de sa propre langue de traducteur.
Est-ce qu'il y a eu pour vous un texte déclencheur ? Toute cette semaine, les traductrices qui sont venues dans cette émission ont parlé à un moment de soit un texte, soit un poème, soit quelque chose qui a été peut-être un défi pour vous et qui le départ d'une envie de traduire ?
De traduire en général,
oui.
Au départ. C'est le latin. Enfin, c'est pas une seule œuvre, mais c'est les poètes latins, et particulièrement Catulle et Ovide, que je me suis empressée de traduire, parce que ce sont mes deux poètes préférés de l'Antiquité.
Parce qu'ils faisaient justement subir à la langue latine ?
Oui, bien sûr. Et parce que la langue latine, je l'ai adoré dès que je l'ai étudié, ce qui est rare. J'ai eu la chance d'avoir un professeur tout à fait remarquable qui apprenait à ses élèves non pas à faire des versions pour voir s'ils avaient bien acquis les données, les éléments syntaxiques ou lexicaux, mais qui apprenait...
La version, c'est la traduction du latin au français.
Oui, c'est ça. La version scolaire qui a ses mérites, mais qui est faite pour contrôler les connaissances de l'élève. Mais ce professeur-là apprenait à traduire littérairement. Il donnait déjà les bases pour apprendre ce que c'est qu'une traduction qui n'a rien à voir avec une version. Et ça m'a énormément titillé et j'ai eu envie de traduire à partir de là. Donc j'ai commencé par le latin.
Et par la poésie. Qui est une forme très particulière.
Oui.
Pourquoi c'est vers la traduction de poésie que vous vous êtes tournée ?
Et parce que la poésie, c'est vraiment pour moi le sommet de l'écriture. Donc j'ai été tout de suite attirée pour cette raison-là.
Par la particularité du traitement que la langue subit dans la poésie.
Oui, 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 sur tous les plans, sur le plan lexical, syntaxique, métrique, prosodique. Et j'ai été très intéressée par le fait d'aller au fond de l'intimité du poète, en fait, à l'œuvre.
C'est une intimité que vous cherchez ?
Oui.
Est-ce que vous faites un lien entre tous les auteurs que vous avez traduits ?
Oui, très certainement.
Est-ce qu'il y a un chemin, oui, comme ça ?
Oui, oui.
Parce que ça va de Paul Auster, oui. Ovid, Catulle, Cavalcanti, un poète italien, et Dante.
Dans leur grande diversité, je trouve un fil conducteur. Et il y a toujours, chaque fois que j'ai abordé un nouveau poète, j'ai trouvé des éléments que j'avais déjà vus dans le poète précédent et qui, donc inconsciemment, m'avait un peu conduite vers le suivant. Et c'est vrai, je trouve... Maintenant, il y a, ça peut paraître un peu paradoxal, entre Billie Holiday et Ovid, ou Dante.
Vous avez traduit Billie Holiday aussi.
Oui, oui.
C'est son autobiographie.
Voilà. Il semble qu'il n'y ait aucun rapport. Et pourtant, je vois des liens secrets, mystérieux. Et pourtant, la langue de Billie Holiday, c'est une langue parlée, très familière, argotique. Mais il y a la dimension tragique de sa vie et de son œuvre et de son chant qui font que lorsqu'elle chante, elle est poète. Elle crée une œuvre d'art à partir d'une chanson très populaire et très simpliste. Elle est artiste et tous les autres ont également agi de cette façon. Et c'est ce qui m'intéresse chez eux.
Est-ce que c'est différent de s'attaquer à une langue ancienne, donc le latin, puis après l'italien médiéval ? Est-ce que le voyage est différent du fait que ce soit une langue morte ou une langue, l'italien médiéval, à peu près en partie disparue ?
Non, la différence n'est pas vraiment là. La différence entre la poésie antique, la poésie latine et la poésie médiévale, c'est la structure des poèmes, c'est la versification, c'est la manière dont la langue fonctionne. Et en latin, par exemple, il n'y a pas de versification syllabique puisque le vers latin repose sur une alternance de longues et de brèves et des mesures et non pas des pieds ou des syllabes. Alors que dans la poésie médiévale, aussi bien française qu'italienne, là on a un système syllabique. De même, en latin, il n'y a pas de rime. Ce n'est pas une poésie rimée. Évidemment, je n'ai jamais eu l'idée de traduire les poètes latins en vers rimés. Ça aurait été pour moi une aberration parce que ça n'existait pas dans la culture et la langue latine. En revanche, pour ce qui est de Cavalcanti ou Dante, là, j'ai trouvé évidemment une poésie qui repose quasi exclusivement sur la rime. C'est pourquoi je me suis lancée dans la traduction en m'adaptant à cette versification-là et en la prenant en compte totalement.
Je propose qu'on rentre un peu plus dans votre atelier et qu'on parle justement de la rime.
Comme lorsque les vapeurs humides et épaisses, puisqu'on est dans le brouillard, humides et épaisses, commençaient à se répandre. Se répandre. Alors, quand ces vapeurs, la sphère del sol débilemente entra per essi. J'avais traduit « Vois l'aube qui perce à travers la fumée, déjà blanchoyée, et je dois partir, l'Angela, avant d'être repérée. » Alors, en relation avec ça, Dante commence son nouveau chant par cette image de sphère,
qui signifie rayon lumineux.
Les rayons du soleil entrent faiblement par les vapeurs, à travers les vapeurs de nouveau, traversent faiblement les vapeurs. Si un jour le brouillard t'a surpris, souviens-toi, lecteur, si un jour le brouillard surpris, à travers, tu ne voyais que... Souviens-toi, lecteur, je n'ai pas d'autre possibilité que de commencer comme ça.
Si un jour en montagne, le brouillard t'a surpris, il ne t'a, souviens-toi, lecteur, permis qu'à travers tes de taupe de voir comment les humides et épaisses vapeurs commençant à se dissiper, la sphère du soleil les pénètre, mais sans vigueur. Et il sera prompt, ton imaginaire, à parvenir à voir comme je revis d'abord du soleil l'heure crépusculaire.
Daniel Robert, on entend une lecture, c'est le chant 17 du Purgatoire de Dante, extrait de la Divine Comédie, lu par Maxime Le Gacolanier. Et juste avant, c'était un extrait d'un documentaire qui s'appelle « Des voix dans le cœur », cœur avec un H, éloge des traducteurs de Henri Colomer, qui est allé vous filmer pendant que vous traduisiez le Purgatoire de Dante. Et on vous entend chercher, lire le texte en italien, chercher les mots, chercher des rimes et compter les syllabes.
Oui, c'est un passage du film où Henri Colomer m'a dit « Maintenant, je voudrais vraiment te filmer en plein travail et que ce ne soit pas quelque chose d'artificiel, de jouer, mais que tu prennes vraiment un texte que tu n'as pas encore travaillé et que tu le fasses devant moi, sans te préoccuper de moi. » Et j'ai joué le jeu. Alors j'ai pris ce chant 17 que je n'avais encore pas commencé à traduire. Je n'en étais même pas au chant 16, j'étais bien avant. Et je me suis lancée. Donc on entend le tâtonnement, la manière dont j'essaie de repérer ce qui va peut-être être l'armature des strophes, ce qui n'est qu'accessoire. Et voilà, j'ai vraiment joué le jeu peu tremblante d'ailleurs, parce que j'avais peur de me planter en fait. Et puis bon, mais on entend que au point où j'en suis, là, dans le film, je n'ai pas encore trouvé la traduction des trois strophes qui viennent d'être lues magnifiquement, d'ailleurs, je dois dire.
Est-ce que c'est de cette manière, oui, que vous avez procédé ? Parce qu'on a dit, donc, votre traduction de la Divine Comédie de Dante, elle est rimée, donc le français rime, dans le français que vous traduisez. Est-ce que c'est le pivot, la recherche de la rime ?
Ce n'est pas toujours le cas. Pour La Divine Comédie, c'est très important puisque il a d'abord inventé un système de rimes que personne n'avait encore utilisé. Il s'est inspiré de certaines pièces poétiques de troubadours, de Cervantes, de ce qu'on appelle le Cervantes, mais qui n'était pas exactement la tierce rime. Et il a construit à partir de là ce système d'un entrelac de rimes qui vont trois par trois et non pas deux par deux. Et ce système apporte au texte une pulsation. Jacqueline Hirissé parlait de vitesse pour Dante. Et elle insistait sur la vitesse. J'emploierais plutôt le mot de pulsation parce que c'est alternativement rapide ou lent. Mais il y a, grâce à la tierce rime, ce mouvement constant qui conduit le lecteur de la forêt obscure où Dante est terrorisé jusqu'à l'Empyrée où il contemple le point lumineux. Et ce mouvement-là, c'est évidemment toute la colonne vertébrale du texte. Donc, pour moi, il a été immédiatement évident que je ne pouvais pas traduire la Divine Comédie autrement qu'en respectant la tierce rime. Et ça, je le maintiendrai la tête sur le billou. Je ne veux absolument pas critiquer toutes les autres démarches et des traducteurs que je respecte profondément. Et il y a de très belles traductions qui n'ont pas pris cette option, notamment Jacqueline Risset. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce qu'elle a fait. Et pour beaucoup d'autres. Mais pour ce qui me concerne, ça ne pouvait pas être autrement. Et c'est un peu comme un musicien ou un acteur de théâtre ou de cinéma ou une chanteuse d'opéra qui donne sa lecture d'une partition, d'un texte musical ou littéraire. Et c'est sa lecture qui entraîne une interprétation qui n'est qu'à elle. Bon. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'il y a une seule version possible des valses de Chopin ou du clavier bien tempéré. On ne peut pas non plus dire qu'il y a une seule traduction possible d'une œuvre de la stature de celle de Dante. Et plus une œuvre est puissante, plus elle s'offre à de multiples traductions. Non seulement dans le temps, mais même dans une même période, elle s'offre à des traductions différentes, des versions différentes qui correspondent à chaque individu.
Ce qui est très beau dans le film d'Henri Colomer, oui, c'est justement ça, c'est l'opération du choix, c'est le choix d'une option. Parce qu'on voit aussi d'autres traducteurs, je pense à Sophie Benesch, oui, notamment, qui traduit du russe.
Oui, Sophie Benesch.
Sophie Benesch, pardon.
Et Michel Volkovitch.
Et Michel Volkovitch, grec, traduit du grec moderne, oui.
Oui, bien sûr.
Et on vous voit tous faire des choix, mais des micro-choix à chaque fois. On se rend compte que la traduction est une opération de négociation permanente, souvent avec soi-même, avec l'auteur, la présence de l'auteur qui est quand même là, et qui on voit ce dialogue s'inscrire, mais c'est une succession de choix.
Tout à fait. Et ce qui nous a vraiment surpris, nous ne nous connaissions pas, tous les trois. Nous connaissions nos noms, mais nous ne les étions jamais rencontrés. Et lorsque nous avons vu le film qui a été fait par petits morceaux, enfin avec chacun individuellement, nous sommes rendus compte que nous avions beaucoup d'affinités, beaucoup. Nous formions une communauté de traducteurs, sans le savoir.
Est-ce que choisir une rime, c'est un geste d'écrivain ?
Bien sûr, bien sûr.
Un choix d'écrivain ou de poète ?
Toute la traduction est un geste d'écriture, un geste d'écrivain. De même que je disais tout à l'heure qu'un auteur était traducteur, un traducteur est un auteur. Et la traduction est un acte d'écriture à part entière. Bien sûr, il y a le point de départ qui est le texte étranger, mais ce texte étranger va devenir un autre texte. Il n'y a pas de clonage en traduction, on ne fait pas la réplique du texte proposé, pas du tout. Il y a une transmutation, ce que Antonio Prete appelle une transmutation, une transposition et un passage d'un texte existant dans toute sa beauté et sa multiplicité de sens à un texte nouveau qui est accueilli par le traducteur et le traducteur lui-même accueille ce texte pour en faire un objet nouveau. Et donc il y met forcément tout de lui-même, enfin une grande partie de lui-même.
On vous entend aussi dans l'extrait arpenter, donc découvrir un chant de Dante que vous n'avez pas encore, auquel vous ne vous êtes pas encore attaqué. Qu'est-ce que c'est d'avoir été avec Dante pendant une dizaine d'années ?
Alors, c'est un très long compagnonnage. Au début, c'était un petit peu très impressionnant, un peu angoissant, mais au fil des chants et des diverses parties, il m'est devenu de plus en plus familier. Et presque comme s'il s'agissait d'une personne à côté de moi. Il m'arrivait en traduisant, lorsque je butais sur une difficulté, il m'arrivait de dire « Mais qu'est-ce que tu me fais là ?»
De lui parler, oui.
Et je lui disais même « Babbo ma que fai ?»
Babbo, ça veut dire quoi ?
Papa.
Je propose qu'on aille au paradis.
Si tout ce que jusqu'ici j'ai chanté en une louange était réuni, à remplir ma tâche, elle ne suffirait. Non seulement la beauté que je vis nous dépasse, mais je suis bien certain que son créateur lui seul en jouit. Et je m'avoue vaincu sur ce terrain, bien plus que ne le fut par son sujet, tel comique ou tragique sur un point. Car comme au soleil la vision est brouillée, à me remémorer son doux sourire, s'échappe de moi-même ma pensée. Du premier jour où je vis dans cette vie son visage et jusqu'à cette vision, suivre mon chant ne m'a jamais trahi. Mais je dois abandonner l'impulsion de célébrer sa beauté en rimant, comme tout artiste au bout de sa passion.
Vous écoutez France Culture, Par les temps qui courent, avec Daniel Robert. Daniel Robert, on vient d'entendre une lecture par Maxime Le Gacolanier du Paradis de Dante. On est au chant 30, donc soit proche de la fin du paradis, où Dante accède à un espace qui est donc le dernier ciel du paradis, qu'on appelle l'Empyrée. L'Empyrée qui est très clairement un chef-d'œuvre. C'est un espace incroyable. Donc il y a une cohorte de saints répartie dans une rose blanche.
La rose mystique.
Et on l'entend dans cette lecture, c'est un moment où Dante doute. Et pendant tout le paradis, il y a quelque chose où Dante se dit « Je n'arrive pas à décrire ce que je suis en train de voir. » Il y a quelque chose qui est tout entier tendu vers l'indicible. Et il est tout le temps en train de dire « se taire », d'osciller entre ces deux pôles, « se taire » et « parler ».
Oui, c'est une constante dans l'œuvre, surtout dans le paradis. Il y a à la fois la mission qui lui a été donnée, qu'il ressent comme une injonction, qui est de devoir dire ce qu'il a vu. Je parlerai des choses que j'ai vues dès le départ, il dit. Et il sait qu'il fait ce voyage, qui est une expérience intérieure en fait. Il fait ce voyage dans le but de revenir sur Terre et de dire aux humains ce qu'il a vu. Donc leur dévoiler sa propre découverte. Et en même temps, il a conscience de manquer de mots pour le dire, tant la vision qu'il a eue est indicible. Et en même temps, il a peur, encore plus que des mots, il a peur de sa mémoire. Il craint de ne pas avoir pu conserver dans sa mémoire tout ce qu'il a pu voir pour pouvoir le dire. Et bon, c'est tout le problème de l'écriture aussi. Comment exprimer et dire jusqu'au bout tout ce qu'on a à dire sans rien oublier, sans rien fausser.
Le paradis, c'est un espace qui est aussi saturé par un mot, qui est l'amour, qui n'a pas forcément le même sens, j'imagine, au XIVe siècle que maintenant. Comment vous faites avec ça, avec des notions dont le sens a pu changer à travers les siècles et 700 ans ?
Le mot amour n'a pas tellement changé entre le XIVe siècle, parce que
oui, c'est vrai.
L'amour dantesque... Il a évidemment plusieurs facettes, mais ce qu'il veut montrer, lui, c'est le passage d'un amour terrestre, humain, qui est son amour pour Béatrice. La Béatrice qu'il a rencontrée à 9 ans, puis à 18 ans, avec qui il n'y a jamais eu rien d'autre que des regards, des sourires, et même pas une parole. Donc la véritable Béatrice, qui est aussi une fiction, puisque ce n'est pas une réelle histoire d'amour. Et puis il y a la construction de l'amour, toujours sous la forme de cette Béatrice, qui est une Béatrice transcendée, complètement irréelle, mais irréelle sur le plan humain, mais elle devient celle qui le conduit vers la vérité. Et la vérité, c'est la contemplation du point lumineux qui est l'amour. Mais l'amour qui meut le soleil et les étoiles.
Comment ça s'articule pour vous, ce geste de Dante qui peut à la fois relever d'un orgueil absolu L'idée d'avoir traversé le royaume des morts, puis la montagne du purgatoire, puis le paradis et accéder jusqu'à la divinité, même si elle est insoutenable, et une espèce de drôle de forme d'humilité qu'il a tout le temps, en disant « je me soumets
oui,
à cet ordre ».
C'est ce qu'on entend. L'ambiguïté du personnage. C'est vrai qu'il était très orgueilleux, il le sait, il le dit à chaque étape de ce voyage, surtout lorsqu'il arrive au purgatoire, il sait qu'il va revenir lorsqu'il sera mort. Il ne pense pas qu'il va être damné, mais il pense qu'il va devoir expier ses fautes, et la plus grave, c'est l'orgueil. Et donc, il est conscient de ça, et en même temps, devant Béatrice ou Virgile, c'est-à-dire devant les figures qui, pour lui, sont des modèles, l'un de la puissance créatrice en poésie, qui est Virgile, et l'autre, la puissance créatrice aussi dans l'amour, devant ces deux figures, il est comme un petit garçon. Et il se fait gronder, et il se rapproche de Virgile pour se mettre sa tête contre son épaule. À un moment donné, Virgile lui dit « Mais lève-toi !» Il est ratatiné contre une pierre parce qu'il a peur. Bon, il se montre aussi dans cet état de simple mortel qui est très faible, qui a peur, qui peut faire des bêtises. Il y a tout ça, et c'est toute la condition humaine qu'il nous raconte. Alors, il part de lui, mais chaque fois qu'il, dans chaque chant, on sent que il est ce qu'on a appelé l'everyman. Il est tous les humains. Et alors, ça, c'est peut-être un peu de l'orgueil aussi, mais il se sent humain au milieu des humains, et c'est pourquoi il a à cœur de faire au lecteur le même voyage que lui-même a fait.
Il y a une grande dimension musicale dans la Divine Comédie, dont on a parlé, avec cette question du rythme aussi, de la rime. Mais il y a aussi une dimension qui est extrêmement plastique. C'est-à-dire, l'enfer est un espace très très déterminé. Il y a une carte, il y a une géographie de l'enfer. Il y a le purgatoire qui est une montagne, et puis après le paradis. Est-ce qu'il faut aussi tenir compte de ça quand on traduit ? De quel espace on crée ?
Oui, oui. Bien sûr, il est dans le purgatoire aussi. Il évoque très souvent la peinture, l'enluminure, la peinture, la poésie sous la forme des Oderis d'Agubbio, Franco Bolognese, et puis ensuite il montre Cimabue et Giotto, et puis Guinizelli et Cavalcanti comme des figures de deux générations qui s'opposent, les anciens et les modernes, si on peut dire, avec tous les problèmes que pose le passage d'une époque à l'autre en art, et notamment en art classique. Et puis, il dépeint beaucoup de scènes de façon très très visuelle. On a l'impression que qu'il a un pinceau au bout des doigts, et qu'il sculpte aussi. Par moments, il a une vision très comme des bas-reliefs ou des hauts-reliefs qu'il nous décrit.
Et c'est un espace, ça, que vous avez, enfin qu'il est important aussi de concevoir, oui, de voir pendant quand vous traduisez.
Oui, oui. Et avec Dante, c'est assez facile à voir, et je crois que il serait facile aussi à mettre en scène. D'ailleurs, dans les Contes de Canterbury de Pasolini, il y a toute une séquence qui est directement empruntée à la scène de l'enfer, où il y a tous les diables, le chant 26 qui est extrêmement cocasse et drôle, et Pasolini l'a repris et l'a filmé.
Avec des fourches, il y a du feu partout.
Ah oui, avec tous les détails les plus évocateurs.
Ô vous, qui êtes d'un entendement saint, considérez le sens profond caché sous le voile de mes vers sibyllins. Et déjà montait des eaux tourmentées, semeur d'épouvante, un bruit fracassant qui faisait les deux rivages trembler. En tout point semblable à celui d'un vent, qui, impétueux sous le choc des chaleurs, frappant la forêt, les branches brisant, sans frein les abat et les porte ailleurs. Il va de l'avant, poussiéreux, arrogant, et il fait fuir les bêtes et les pasteurs. Me libérant les yeux, il me dit « Tends ton œil aigu vers l'ancestral lit, là-bas où le miasme est le plus suffocant. Comme devant la couleuvre ennemie, avant d'aller sur le sol s'entasser, les grenouilles à travers l'eau s'enfuient. Moi, je vis plus de 1000 âmes damnées s'enfuir devant celui qui, d'un bon pas, passait le Styx sans se mouiller les pieds. De son visage, il écartait l'air gras, portant sa main gauche souvent devant lui, et de ce seul ennui paraissait là. Il était envoyé du ciel, je compris. Me tournai vers mon maître, il me fit taire d'un signe et m'incliner devant lui. Ah, comme il me parut plein de mépris. Vint à la porte et, sans trouver résistance, avec sa seule baguette, il l'ouvrit.
Il y a tout de même une fabrication au très haut sens du terme. Puisque Dante vous dit, et le répète souvent et attire votre attention là-dessus, que ce qu'il vous dit a au moins quatre sens. Parce que quand il dit « Oh boy, qu'avete l'intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani », c'est-à-dire, vous qui avez les intellects sains, regardez la doctrine qui se cache sous le voile des vers étranges, ça ne veut pas dire que la poésie soit là comme un superflu qu'il faudrait déchiffrer. La poésie remplit ces quatre sens. Autrement dit, vous pouvez d'une même façon donner un sens tout à fait littéral, je sais pas, l'actualité, vous déchiffrez l'histoire contemporaine, par exemple. C'est pour ça que Dante continue parmi nous. Vous pouvez voir se passer un certain nombre de choses. Et puis vous allez monter au sens moral, puis un peu petit, et puis ensuite vous allez aller au sens analogique ou mystique entre guillemets si vous voulez, mais vous allez avoir une parole suffisamment forte pour qu'elle ait ses quatre sens à la fois constamment. Et lorsque vous perdez cette ouverture, cet éventail des quatre sens, alors vous avez tendance à être rabattu sur le sens littéral, ce que nous vivons, n'est-ce pas, tous les jours.
C'est la voix de Philippe Solers, une archive de France Culture en 2001. Et juste avant, c'était une lecture du chant neuf de l'Enfer, où il y a ce moment très précis où Dante dit « Attention lecteur, derrière mes vers sibyllins, il y a plusieurs sens. » Et les quatre sens qu'a détaillé Philippe Solers, qui sont donc des sens que Dante a définis dans Le Banquet, je crois.
Oui, oui, bien sûr.
Dans son essai, Le Banquet.
Le convivio ou Le Banquet. Oui, c'est le sens littéral, allégorique, moral et anagogique, les quatre.
Est-ce que traduire Dante, c'est aussi traduire un grand intellectuel?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et quelqu'un qui avait un savoir encyclopédique, dans des domaines extrêmement divers, ça pouvait être dans les bassins de Radoub, la façon dont on réparait les bateaux, ça pouvait être les agriculteurs, les viticulteurs, les tanneurs, les forgerons. Il s'intéressait à tout ce peuple de travailleurs pour qui il écrit aussi. Et qui pourtant étaient des gens illettrés pour la plupart. Au XIVe siècle, il y avait très peu de gens qui savaient lire. Mais c'est pourquoi aussi il a créé cette œuvre avec ses rimes, parce que c'était un moyen de s'en souvenir, de mémoriser. Et il était très connu, bien que les gens ne soient pas forcément en mesure de lire.
Par la transmission orale.
Voilà, par la transmission orale. Oui, oui.
Est-ce que dans cette manière qu'il a aussi de construire cette espèce de... On peut le voir comme une cathédrale, la Divine Comédie.
Oui, certainement. Oui. D'ailleurs, c'est l'époque du gothique flamboyant. Et il y a beaucoup de liens entre la construction des cathédrales dans cet art-là et la façon dont Dante conçoit son œuvre. Bien sûr. De même que c'est le début aussi de la polyphonie. Et il était extrêmement féru de musique. Et il y a aussi dans ses choix de versification, de ses choix rythmiques, ce rappel de la naissance de la polyphonie qui est l'organum.
Est-ce que ce dispositif... J'avais perdu ma question, je suis en train de la retrouver. ce dispositif rythmique de Dante très particulier. Est-ce qu'il vous faut ça pour traduire un auteur? Quelqu'un qui est vraiment un choix formel fort?
Certainement, oui. Oui. Pour le traduire et pour avoir envie de le traduire, oui, bien sûr.
Vous allez traduire quoi après Dante? Vous avez des idées?
Je vais traduire Antonio Prete. Mais sous une autre forme.
Des textes littéraires?
Oui, mais ce n'est pas un recueil de poèmes, mais ce sont des rêveries et des réflexions, méditations sur certains vers de la poésie, de poésie ou de prose de multiples auteurs de tous les pays.
D'accord.
Et c'est très intéressant ce qu'il fait.
Merci beaucoup, Daniel Robert.
Merci à vous.
La Divine Comédie de Dante vient de paraître en poche et en intégrale, en traduction rimée chez Actes Sud dans la collection Babel. On peut citer aussi le film Des voix dans le cœur d'Henri Colomère dont on a parlé, et Antonio Prete, À l'ombre de l'autre langue, pour un art de la traduction traduit par vous, aux éditions Chemin de Ronde.
It's lazy, running for my own life now. I'm really turning some time, looking up to the sky for something I may never find. Stop calling, it's time.
Ce soir au son, c'était Maïwenn Lejehan, Olivier Guérin à la réalisation, Marie Viguier, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Marie Richeux, c'est l'équipe de l'émission. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France où vous pourrez vous abonner au podcast. Something's better than nothing.